RFI les 20h à Paris et à Berlin, 19h en temps universel. Et c'est à vous, Véronique Rigolet. Bonsoir Véronique.
Bonsoir Sylvie, bonsoir à tous. Et à la une ce soir, en Iran, l'otage français Olivier Grondeau sort du silence après plus de 2 ans de détention. Il se dit épuisé à bout de force et espère avoir plus de chances d'être libéré après avoir ainsi révélé son identité. Un juge international, Nawaf Salam, nommé premier ministre du Liban. Et pour lui, la tâche s'annonce gigantesque pour relever un pays en crise marqué par la faillite économique et la guerre. Toujours pas de répit sur le front des incendies à Los Angeles, au moins 24 morts et des vents violents qui menacent d'attiser encore les flammes qui consument la ville. Enfin, Mayotte, toujours en alerte après le passage du cyclone Dick Lady. C'est un phénomène de mousson, le Kashkazi, qui devrait maintenant frapper l'île.
RFI.
Le troisième otage français en Iran est donc sorti de l'anonymat ce lundi. Emprisonné depuis plus de 2 ans, Olivier Rondeau a décidé aujourd'hui de révéler son identité et de lancer un appel à l'aide pour clamer son épuisement ainsi que celui de ses 2 compatriotes, Cécile Kohler et Jacques Paris, eux aussi emprisonnés par la République islamique. Après l'échec de tous les efforts diplomatiques pour le libérer, lui et ses proches ont choisi de médiatiser sa situation dans l'espoir que cela facilitera sa libération. Car depuis son arrestation en octobre 2022 à Shiraz, dans le sud de l'Iran, et bien Olivier Grondeau a été condamné à 5 ans de prison, accusé de complot contre la République islamique, ce que conteste son entourage et les autorités françaises. Tristan Bultio est l'ami d'Olivier Grondeau, mobilisé pour demander sa libération. Il est au micro de Nicolas Falaise.
Pour sa situation judiciaire, c'est 5 ans de prison au bout d'une longue attente pour un procès qui a été complètement une mascarade à nos yeux. Le dossier est complètement vide. Il est bien sûr innocent de ce qu'on lui reproche, c'est-à-dire d'avoir comploté contre la République islamique. Ses conditions de détention, aujourd'hui, il est à Evin, à Téhéran, donc la prison avec 20 000 prisonniers, où sont également détenus Cécile Kohler et Jacques Paris, les 2 autres otages, dans des conditions encore plus épouvantables. Celles d'Olivier sont insupportables également, et si il brise le silence aujourd'hui, c'est parce qu'il est à bout de force, il est épuisé, sa santé en pâtit, et chaque jour est un jour de trop, et on a très peur pour lui.
D'après vous, c'est un sujet judiciaire ou un sujet politique entre la France et la République islamique d'Iran?
Alors nous, ça nous dépasse complètement cette dimension-là. On a vraiment l'impression d'être les pions avec un proche qui a été pris en otage pour des négociations entre États. Pour nous, oui, le dossier est vide. Bien sûr, il est complètement innocent et les accusations sont ridicules. Les motifs sont clairement politiques et nous dépassent complètement, nous, ses proches.
Et cet appel d'Olivier Grondeau intervient quelques jours après la sortie de prison d'une journaliste italienne et quelques heures également avant l'annonce de la libération d'une germano-iranienne détenue depuis 4 ans. Un nouveau Premier ministre au Liban, le juge Nawaf Salam, a été nommé cet après-midi par le tout nouveau président Joseph Aoun. Nawaf Salam est l'actuel président de la Cour internationale de justice. Il va devoir maintenant s'atteler à composer son gouvernement et sera confronté à des défis majeurs dans un Liban exsangue marqué par la faillite économique et la guerre. On retrouve tout de suite à Beyrouth notre correspondant Paul Ralifé. Bonsoir Paul.
Bonsoir Véronique, bonsoir tout le monde.
Et c'est donc une vaste tâche qui attend le tout nouveau Premier ministre libanais.
Oui, et la rapidité avec laquelle Nawaf Salam a été désigné est le résultat de cette volonté, de cette dynamique de relance des institutions libanaises amorcée avec l'élection jeudi dernier de Joseph Aoun à la présidence. Elle est aussi le reflet des nouveaux rapports de force nés des récents développements au Liban et en Syrie et qui ont notamment abouti à l'affaiblissement du Hezbollah et de ses alliés. En effet, Nawaf Salam est depuis des années le candidat favori des forces politiques et des pays hostiles au parti chiite qui s'est abstenu ce lundi de le nommer sans pour autant parvenir à bloquer sa désignation comme il le faisait par le passé. Il bénéficie aussi du soutien des pays occidentaux qui voient en lui un dirigeant capable de mener les réformes politiques et économiques exigées par la communauté internationale pour sortir le Liban de cette crise multiforme. Le nouveau Premier ministre, âgé de 71 ans, est bardé de diplômes des plus prestigieuses universités françaises et américaines. Sa carrière est impressionnante. C'est un historien, un avocat, un académicien, un diplomate et un magistrat. bien qu'il soit issu d'une grande famille sunnite beyroutine bien ancrée dans la politique du pays depuis des décennies, Nawaf Salam n'est pas jugé comme un représentant de la classe politique corrompue.
Merci Paul Ralifé, en direct de Beyrouth. Aux États-Unis, toujours pas de répit sur le front des incendies à Los Angeles. La Cité des Anges se prépare donc à nouveau au pire avec le retour de vents violents qui menacent d'attiser encore les feux et compliquent bien sûr le travail des pompiers. Assiégée par les flammes depuis mardi dernier, la deuxième ville la plus peuplée des États-Unis continue de compter ses morts et le bilan s'est alourdi hier à 24 morts. Sur les réseaux sociaux, cette catastrophe n'échappe pas à la désinformation, vidéos détournées, images générées par intelligence artificielle. Il est devenu très difficile de distinguer le vrai du faux. Dernier exemple en date avec un deepfake de Taylor Swift, vu des centaines de fois, Grégory Genévrier.
La chanteuse américaine aurait-elle déclaré que les incendies à Los Angeles sont une punition divine en réponse à la position américaine sur Gaza ? C'est ce que laisse entendre à tort une vidéo activement partagée sur les réseaux ces dernières heures. On croit y voir Taylor Swift lors d'une interview télé dénoncer le soutien américain à Israël. Sauf qu'en réalité, c'est un hyper-trucage, un deepfake.
As a natural disaster consumed an area larger than Gaza itself. This event raises profound questions about justice.
Cette voix n'est pas celle de Taylor Swift, elle a été générée par une intelligence artificielle. Dans la vidéo originale qui a servi à cette manipulation, la chanteuse parlait de l'écriture de l'une de ses chansons. Ce genre de tentative d'instrumentalisation se compte par dizaines. Certains désinforment pour nier l'existence du réchauffement climatique, pour s'attaquer au soutien américain à l'Ukraine ou pour critiquer le Parti démocrate. Ces infox se cumulent parfois des dizaines de millions de vues, semant le doute sur ce qu'il se passe réellement à Los Angeles.
À Mayotte, l'alerte rouge a été levée aujourd'hui après le passage de la tempête tropicale Dick Lady qui a causé d'importantes inondations et notamment dans le sud de l'archipel. L'archipel qui reste néanmoins en vigilance orange car un phénomène de mousson, le Kashkazi, devrait maintenant frapper l'île, encore fragilisée par le passage de Chido il y a un mois. La rentrée scolaire et celle des enseignants est repoussée à la semaine prochaine au plus tôt. Sur le fond de la guerre en Ukraine, les Européens et l'OTAN en réunion au sommet le 3 février prochain. Les dirigeants de l'Union européenne, du Royaume-Uni et le secrétaire général de l'OTAN se retrouveront ainsi en Belgique pour une rencontre exceptionnelle consacrée à la défense européenne. Et ce, deux semaines après l'entrée en fonction de Donald Trump à la Maison-Blanche. Au cœur des discussions, l'attitude de la future administration américaine sur le soutien occidental à l'Ukraine, sujet qui préoccupe fortement les Européens et l'OTAN. Le ministre français des Armées, Sébastien Lecornu, était d'ailleurs aujourd'hui en Pologne pour parler du soutien à Kiev. Également au menu des discussions, d'importants programmes d'armement en perspective et Varsovie, qui se dit intéressé par des matériels français. Franck Alexandre.
Jusqu'à présent, l'armée polonaise s'est toujours tournée en priorité vers les États-Unis pour moderniser son arsenal. Mais les tensions sur le marché de l'armement liées à la guerre en Ukraine ont poussé Varsovie à se tourner vers d'autres pays producteurs, en particulier la Corée du Sud. Aujourd'hui, la Pologne regarde également ce qui se fait plus près de chez elle et lorgne sur des savoir-faire français de pointe, souligne le spécialiste de l'armement Léo Peria-Peigné, chercheur à l'IFRI.
Alors, il y a plusieurs options qui pourraient être levées par les Polonais. D'abord, une option très importante sur des sous-marins du type Scorpène notamment. Il y a aussi une option de satellites de renseignement et d'observation pour renforcer le parc montant de la Pologne. Et surtout, l'option la plus importante qui arrive, ce serait des missiles sol-sol à longue portée basés sur le missile de croisière navale français dans le cadre du programme ELSA qui est mené avec les Polonais, les Allemands, les Italiens et les Français. La France a pas mal d'éléments à vendre qui intéressent ses partenaires.
La Pologne, qui s'est lancée dans une politique de réarmement massif, ambitionne de devenir l'une des premières armées européennes. Elle s'en donne d'ailleurs les moyens en consacrant à sa défense 4,7% de son PIB en 2025.
Enfin en Inde, c'est parti pour le plus grand pèlerinage de tous les temps. Les bains rituels de masse ont débuté dans le nord du pays pour le méga festival hindou de la Kumbh Mela, où sont attendus quelques 400 millions de personnes. À titre de comparaison, le grand pèlerinage annuel de la Mecque n'a rassemblé l'an passé que 1,8 million de fidèles.